Vous écoutez RTL.
Durant plusieurs générations, notre famille a vécu en sécurité sur cette île paisible. Mais au-delà du récif, un danger nous menace.
RTL.
La légende parle d'un héros qui sillonnera l'océan à la recherche du demi-dieu Maori.
La curiosité est un vilain défaut.
Partir en mission avec une gamine, pas question.
Ça, c'est ma pirogue et tu vas venir jusqu'à tes feet.
Alors ça, j'ai pas vu venir.
L'océan est mon ami.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous irez peut-être ce week-end voir Vaiana, la légende au bout du monde, le nouveau Disney, avec vos enfants ou vos petits-enfants, grâce à la curiosité et à notre invitée Bérangère Aïchoun-Baptiste. Vous allez pouvoir leur raconter à vos enfants et petits-enfants les vraies légendes polynésienne. Alors ce film, il raconte l'histoire de la fille d'un chef de village qui va renouer avec les grandes explorations de ses ancêtres. La pirogue polynésienne, elle est vraiment au cœur du film. Bah, je l'ai vu ce film, il est très réussi, hein, donc je vous le conseille. Pirogue au cœur du film, et c'est effectivement avec la pirogue que commence l'histoire de ces îles. Quand, par qui ont-elles été peuplées? Est-ce qu'on le sait?
Oui, on le sait. Effectivement, la pirogue, ça a été l'instrument utilisé, le moyen de locomotion. Le peuplement a commencé en moins 4000. Ce sont les Austronésiens qui sont partis de Taïwan et qui ont ensuite, petit à petit, peuplé la totalité de ces îles.
D'une île en île, en quelque sorte.
D'une île en île. Et pour tout vous dire, ils sont allés jusqu'à Madagascar. Et c'est comme ça que la grande famille des langues, on l'appelle la famille austronésienne.
D'accord, donc les Polynésiens donc descendent des habitants de Taïwan, hein, si je vous comprends bien. Donc ce sont de grands explorateurs. Et ça a duré combien de temps, cette colonisation d'île en île?
Ça a duré près de 4000 ans, à peu près, approximativement. Donc en moins 4000, ils sont partis de Taïwan. Ils ont atteint les îles Mariannes en moins 1500, donc ils sont au nord de la Micronésie. En moins 1000, ils étaient en Nouvelle-Calédonie, en Mélanésie. Et ensuite, en plus 300, cette fois-ci, les îles de la Société, au cœur de la Polynésie française.
Mais alors, c'est pas les mêmes, évidemment. Hein, ils se posent, ils font des enfants, il y a plusieurs générations. Mais il y a dans leur gène, cette envie d'explorer et d'utiliser l'océan.
C'est ça. Contrairement à nous qui imaginons l'océan comme un obstacle, pour eux, c'est une route. De la même manière que nous on voit la route et la voiture, eux ils voient l'océan et la pirogue.
Et le sésame et le moyen de cette exploration, c'est la pirogue. Elle ressemble à quoi, ces pirogues?
Alors la pirogue traditionnellement qu'on imagine, c'est une pirogue à balancier. Donc c'est un tronc qui est creusé à laquelle on attache un balancier pour rétablir l'équilibre.
J'ai posé une question bête. Des deux côtés, c'est ça?
C'est possible.
Ouais.
C'est possible. Pas toujours, mais c'est possible. Avec une voile, en général triangulaire. C'est comme ça qu'on la représente.
Ouais. Il y a plusieurs tailles pour ces pirogues, des petites pirogues, des grands bateaux pirogues.
Et à plein de formes de troncs d'arbres. Donc il y a plein de formes de pirogues.
Ah oui, c'est ça, on ne décide pas vraiment. Ça dépend de ce qu'on a abattu, quoi. En
c'est gros. Exactement ça.
Et donc ça peut être une pirogue pour une, trois, six personnes ou beaucoup plus d'ailleurs. Hein. Il y avait des pirogues avec ce système de balancier.
De balancier, oui.
Sur lequel on pouvait embarquer à plusieurs dizaines de personnes. C'est allé jusque-là?
Plusieurs dizaines, je pense pas, plutôt une dizaine, oui.
On les utilise toujours en Polynésie, ces pirogues, elles servent à quoi? À la pêche, au tourisme?
Un peu des deux.
Ouais.
En fait, elle est là, donc quand on en a besoin pour faire du tourisme et de expliquer la tradition, on l'utilise pour ça. Et si on en a besoin pour aller pêcher, on va pêcher avec.
Elles se sont modernisées, ces pirogues? Il y a des GPS
Alors, ce ne sont pas les mêmes, ouais. Mais notamment pour les compétitions sportives, maintenant, c'est des composites, tout simplement. On utilise la même technique, mais d'autres matériaux.
Alors moi, j'ai eu la chance, il y a deux mois, avec un groupe de copains, de faire une sortie en pirogue polynésienne.
Mais où?
Près de Soulac, en Gironde.
Pourquoi pas?
Bah oui. On était trois. Enfin, il y avait un barreur qui savait faire, parce que nous, on ne savait pas. Nous, on était juste chargés de pagayer. Donc, on était trois copains par pirogue. Il y avait deux pirogues. On s'est tiré la bourre et on a même surfé. Et donc ça, c'est un très beau souvenir. Il faut nous expliquer comment ça marche.
Vous étiez en maillot
sur une pirogue? On avait des petites combinaisons. Vous voulez tout savoir?
Les
combinaisons sexy,
tableau,
etc. Et donc en fait, il faut dire que dans une pirogue, il y a des postes en quelque sorte. C'est ça. Vous pouvez nous expliquer ça? Il y a le barreur.
Alors si on prend l'exemple d'une pirogue où on tient à 6.
Oui.
Donc il y a bien 6 postes différents avec chaque équipier qui a un rôle bien défini. Les équipiers sont assis en quinconce.
Ouais.
Et donc sur un V6, le premier est le cadenceur, donc il donne le rythme. Le troisième est le moteur, donc c'est lui qui donne la force, qui impulse la force. Et le sixième est le barreur.
D'accord. Voilà. Le troisième, c'est le moteur, celui qui impulse la force. C'est pas le seul à pagayer. Donc non, ça veut dire quoi, impulser la force? Ça veut dire aller plus ou moins en profondeur, c'est ça?
Plus ou moins en profondeur. Et il doit surtout suivre le rythme donné par le cadenceur, avec plus ou moins de force.
Et qui annonce le changement de côté? Parce qu'on pagaye pas toujours du même côté.
Alors, il me semble que c'est le numéro 3 qui annonce, donc le moteur, oui, qui annonce. C'est vraiment un sport d'équipe, d'endurance, où si on ne tient pas compte de ses équipiers et de leur forme, on rate.
Alors, ce sport, je l'ai appris en préparant l'émission, il est redevenu populaire en Polynésie grâce à une expédition qui a été lancée en 1976. Que voulaient, en quelque sorte, revivre les participants de cette expédition?
Alors, cette expédition, elle s'est inscrite dans un grand mouvement de réappropriation de la culture polynésienne, mmh, et plus largement aussi océanienne. Donc, les participants voulaient revivre l'esprit des grandes migrations du Pacifique, c'est-à-dire près de 5500 km en 32 jours, sans instrument de navigation. C'est particulier.
Ah, c'est pas mal.
C'est un truc pour vous, ça, Thomas?
Non, je pense pas que je vais me lancer là-dedans. Moi, j'ai juste surfé 3 vagues à Soulac. Tout va bien. Sans instrument de navigation, donc à l'ancienne, quoi, avec même pas un compas.
Pas un compas. Alors après, il y avait d'autres manières de se repérer. Notamment, ils avaient créé des schémas avec des bouts de bois, où c'était une sorte de carte qui tenait compte de la position des îles, des vents et des courants.
Et il tenait compte de ça, et j'imagine aussi de la position des étoiles.
Et des étoiles.
Oui, sûrement.
Alors, on quitte notre pirogue, quoique la pirogue elle peut nous aider pour ça. Pour un autre pilier de la culture polynésienne, ce sont les perles. Comment sont-elles récoltées?
Alors, les perles sauvages à la main, avec de la chance.
Dans l'eau?
Beaucoup d'espoir dans l'eau. Les perles de culture, c'est un peu différent, obligatoirement, puisque une perle de culture, pour être créée, on place dans une huître un petit bout de nacre, et par un processus biologique, ça forme une perle. Alors, ce qui s'en rapproche le plus et qui nous parle un petit peu, c'est tout simplement quand on se met une écharpe dans le pied et que se développe de la corne autour de cette écharpe.
Ah, c'est le même principe.
Et c'est à peu près, enfin voilà, c'est ce qui s'en rapproche le plus.
Oui. Mais alors, est-ce que c'est rare de trouver, vous dites c'est rare de trouver une perle sauvage, c'est encore plus rare de la trouver parfaitement ronde, sans,
oui,
défaut?
Oui.
Donc ça veut dire que quand on nous vend une perle sauvage venue de Tahiti dans le commerce, il y a très très peu de chances qu'elle soit vraiment sauvage, c'est ça?
C'est possible, mais dans ce cas-là, elle est encore plus chère.
D'accord, ok.
Est-ce que c'est une huître particulière d'ailleurs qui produit cette...
C'est une espèce d'huître, ouais, particulière, cette qui s'appelle la pinctada.
Ouais.
Et dans la pinctada, il y a plusieurs espèces, c'est une famille, la pinctada, et dans cette famille, il y a plusieurs espèces qui se diffèrent par leur taille, leur couleur, leur forme.
Alors, il y a une autre tradition qui est spectaculaire en Polynésie. Les tatouages, le mot lui-même vient de là-bas et nous relie au mythe cosmogonique, à la création.
Vous écoutez RTL.
RTL. Premièrement, on va devoir traverser un océan de malheur. Les cacamoras.
Les caca quoi?
La curiosité est un vilain défaut.
Vaiana, je te couvre. Ah oui, le retour!
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vaiana, la légende du bout du monde, c'est le titre du nouveau Disney qui est sorti aujourd'hui. On est très fiers à RTL d'être partenaire de ce film. Ça nous a donné envie, à la curiosité, d'en savoir plus sur la culture polynésienne. Et c'est Bérangère Aishun Baptiste, présidente de Waga Waga, qui est l'association de promotion des langues et cultures océaniennes, qui nous raconte. L'île de Moréa, justement, a servi de modèle aux dessinateurs de Disney. Elle est particulièrement spectaculaire, cette île.
Oui, il y a 8 montagnes déjà, donc c'est assez surprenant. Elle est au milieu d'un lagon, puisqu'elle est entourée d'une barrière de corail. Donc ça lui donne cet aspect, ça donne des couleurs très, très particulières.
Donc c'est bleu autour et très vert sur
très vert
le continent.
Et à la fois très montagneux, très... C'est tout droit sorti d'un Disney.
Bah ça tombe bien.
Vous y êtes allé.
C'est ce qui leur a donné envie de... Ils ont choisi Moréa en fait, hein, dans le film. C'est l'île de l'héroïne. Et le héros qui est un demi-dieu s'appelle Maui. Maui, c'est une île aussi, alors qui n'est pas tout à fait au même endroit. C'est où, Maui ?
C'est Hawaï, Maui. Ouais. C'est une île qui est proche d'Hawaï. Et par contre, Maui tire son nom, effectivement, du demi-dieu. Parce qu'il faut savoir qu'en Polynésie, l'intégralité des noms de lieux et de personnes ont un sens. Tout a une signification. Et donc, venir de Maui, c'est aussi détenir le pouvoir un petit peu de Maui, mana.
De ce demi-dieu. Alors ce demi-dieu, dans le Disney, il est tatoué de la tête aux pieds. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque motif dans la culture polynésienne a une signification particulière, c'est ça ?
C'est ça. Malheureusement, il y a pas mal de significations qui ont été perdues avec l'arrivée des missionnaires. Mmh. Toutefois, comme je le disais, il y a tout un mouvement de réappropriation de la culture pour redonner du sens.
Par exemple, une tortue, un soleil, un coquillage, ça a une signification différente en fonction de l'endroit du corps où il est tatoué ?
Alors déjà, au départ, quand on parle d'une tortue ou d'un soleil en tatouage polynésien, ça ressemble pas forcément selon nos propres critères à une tortue ou un soleil.
On va pas les reconnaître tout de suite, d'accord.
Pas tout de suite, parce qu'en général, voilà, c'est de la signification, c'est du sens, c'est du symbole. Quelqu'un qui se fait tatouer son animal totem pour être protégé par son animal totem, ça a vraiment un sens très fort.
On sait à quand remontent ces premiers tatouages en Polynésie ?
On sait pas exactement à quand ils remontent. On sait que c'est une tradition qui a été perdue, retrouvée.
Et une tradition de récit, c'est ça, avec les tatouages, on s'écrivait sur le corps, l'histoire de la population, de la civilisation ?
Oui, parce que la Polynésie, c'est la Polynésie et le Pacifique, de manière plus générale aussi, l'Océanie, tout est à tradition orale. Toutes les manières de conserver son histoire, de redonner du sens à sa place aussi dans le schéma social, tout a été fait, tout a été construit pour dans ce but-là.
Mais c'est même la création. C'est même la création du monde qu'on raconte à travers les tatouages.
La création du monde, on la raconte de plein de manières différentes. C'est très important pour les Polynésiens de savoir d'où ils viennent et quel est leur ancrage. Donc dans les tatouages, effectivement, et aussi dans leur nom. Mais c'est vrai que les tatouages jouent une place très importante.
Le mot tatouage. Il vient de Polynésie ?
Oui, ça vient de ta... Alors, ça a été décomposé. Si on le décompose totalement, ça vient de ta Atua. Et Atua, c'était les dieux. Enfin, c'est le dieu, les dieux, en fonction de comment on le prend. Et ta, c'est le dessin qui est inscrit dans la peau. Donc, se faire tatouer, c'est inscrire l'esprit et les dieux dans sa propre peau et donc dans sa chair et dans son histoire.
J'ai vu que vous aviez un tatouage sur la main.
Sur le poignet, oui.
Sur le poignet, Bérangère. C'est un tatouage polynésien ?
Alors, c'est pas un tatouage polynésien, mais je l'ai fait dans le Pacifique.
Vous parlez un peu...
Ma curiosité a été récompensée.
Tahitien ?
Alors, à l'INALCO, donc Waga Waga, c'est une association qui vient de l'INALCO. Et à l'INALCO, effectivement, on apprend trois langues du Pacifique,
oui.
Dont le tahitien.
Ça donne quoi ? Bonjour, je m'appelle Bérangère.
Yaorana, ova o Bérangère.
Elle est vraiment bien, cette émission, la curiosité sur RTL.
C'est sympa.
C'est génial.
On dit ça comme ça ?
Elle est vraiment bien. Non, c'est trop compliqué.
C'est trop compliqué. Non, on n'est pas là pour vous.
C'est une langue très douce.
Pour vous coller.
C'est très doux. Et c'est totalement différent de ce qu'on connaît.
Pourquoi ?
Alors moi, la première chose qu'on m'a expliquée quand j'ai commencé ma licence, c'était qu'il n'y avait pas de verbe.
Ah, donc pas d'action, pas de...
Voilà, c'est les questions qu'on se pose. Alors en fin de compte, il n'y a pas de verbe à proprement parler comme on l'entend en français, mais des prédicats. Donc tous les mots peuvent être utilisés comme nous on utiliserait des verbes. Simplement, on leur enlève l'article.
D'accord.
Tout ah simplement. Oui,
effectivement. Donc, c'est quand même une langue compliquée à apprendre. Vous l'avez abordé, on parlait des tatouages, on va terminer un peu l'histoire. Vous nous avez dit que ça avait été interdit par les missionnaires, c'est ça ? À quelle époque ?
Ça a été interdit en 1819. Le roi... alors, il y a un débat sur l'appellation roi-chef, mais on va l'appeler ici le roi. Pomaré II, après avoir été converti par les missionnaires, donc en 1819, qui était en place, a interdit les tatouages et certains rites considérés comme païens, afin de permettre une sorte de la colonisation. Tout ça.
Et c'est pour ça qu'on a perdu, parce que c'est, vous nous disiez tradition orale, on a perdu la signification de certains tatouages, c'est ça ?
On a perdu beaucoup de choses. La signification de certains tatouages, certains mots ont été interdits. On les a considérés tapous, donc tabous. Ce tabou, ça vient du polynésien. D'ailleurs.
D'accord, ok.
Et on a recouvert les femmes, on a interdit certaines manières de manger, les lieux de culte qu'on appelait les marais ont été interdits et souvent détruits. Et les tatouages aussi, parce que... En 1819, les tatouages, c'était pas pour les gens bien. Hein. C'était en prison. Donc oui, interdit, malheureusement.
Les tatouages, l'océan Pacifique, il nous reste à découvrir deux autres piliers de la culture polynésienne et du dernier Disney, la danse et le chant, évidemment.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Voilà, Laurent Degache, Angelo et Raphaël Diana qui seront passés sur RTL grâce à la sélection musicale d'André Facetta, notre réalisateur. Et pour illustrer donc le thème de notre curiosité, la culture polynésienne à l'occasion de la sortie du nouveau Disney Vaiana, c'est Bérangère Aichun Baptiste qui nous sert de guide. Je rappelle que vous présidez une association qui fait la promotion des langues et des cultures océaniennes. Waga Waga, ça veut dire quelque chose ça, Waga Waga ?
Oui, ça veut dire la pirogue.
Ah bah justement.
On a essayé de reconstruire, donc c'est ce qu'on appelle le proto-océanien. Mmh. On a essayé de reconstruire quand nous étions en L2, en licence, en deuxième année de licence. l'ancienne forme, l'ancêtre du mot pirogue. Donc en tahitien, ça se dit va'a. Et en reconstruisant petit à petit, c'est Waga Waga.
Waga Waga, donc c'est la pirogue qui est l'un des piliers évidemment de la culture polynésienne. Il y a aussi la danse, le chant omniprésent, comme par exemple les tarawa. Alors là, on a tout de suite l'image d'une foule qui chante. C'est quoi ce chant ?
Alors le tarava, c'est un tarava, hein, pour le dire comme là-bas.
J'ai essayé.
C'est tarava.
De mettre un petit bout de R.
Tarava.
Tarava.
C'est un chant polyphonique a cappella. Donc entièrement, uniquement des voix. Mm-hmm. Ça peut aller jusqu'à 60, 80 personnes parfois. Hommes, femmes. Chacun placé un peu comme un canon, on pourrait dire, en France. Chacun placé en fonction de sa tessiture, ses capacités. Mm-hmm. Et donc ce qui donne cet aspect de foule, c'est justement ces différences de partition en fin de compte.
Oui, chacun joue un petit peu sa propre partition. Alors en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'il y avait une multitude de danses et de chants différents. Oui. Certains de ces chants, en fait, il y a assez peu d'instruments de musique. Et donc, pour certains de ces chants, c'est le corps humain qui sert d'instrument en quelque sorte, c'est ça ?
Le corps, oui, effectivement, peut servir parce que c'est quand même l'instrument qu'on a toujours sous la main.
Bah oui. Un peu comme le haka néo-zélandais, on en parlait la semaine dernière ici même avant le match de rugby.
C'est proche. Faut savoir que les Maoris sont des Polynésiens
bien
aussi,
sûr.
Et donc effectivement les danses de guerre et les chants aussi, il y a des proximités. Alors attention quand même à ne pas dire que ce sont les mêmes, parce qu'il y a des différences et c'est nécessaire de le dire. Mais effectivement il y a beaucoup de ressemblances. Oui.
Bérangère Aichun Baptiste, il y a différentes familles de danse et certaines utilisent beaucoup les mains. On en a déjà un peu parlé, mais c'est comme du mime dans certaines chansons.
Oui.
On va raconter avec son corps.
Effectivement. Les gestes doivent et suivent souvent la parole. Quand on parle d'un oiseau dans une chanson, on fait le geste d'un oiseau comme on ferait pour les ombres chinoises. Et le corps est l'instrument pour raconter une histoire. Et comme je le disais, ce sont des populations à tradition orale. Et donc la danse, les chants sont autant d'instruments pour transmettre cette histoire et pour tisser le lien social.
Par exemple, pour effrayer l'ennemi, pour annoncer un combat, est-ce qu'il y a des chants guerriers ? Il y avait des chants guerriers
Tout à fait.
Plutôt interprétés par des hommes ?
Pas toujours.
Pas toujours.
Alors justement, c'est ça la grande
originalité.
Le gros problème qui s'est posé au moment où les missionnaires sont arrivés. Notamment Bougainville, quand il est arrivé, on lui a envoyé une femme dans son bateau. On lui a
offert une femme.
Apporté une femme dans son bateau.
C'est quoi ? C'était un émissaire en quelque sorte ? C'était une représentante des...
Elle était là pour lui voler son mana. Elle était là pour voler la puissance de Bougainville.
D'accord.
Et il y a eu un gros...
Comme
une grosse incompréhension parce que, et c'est ce qui a créé le mythe de la tahitienne lascive et sensuelle, etc. Et notamment, il y a un très beau livre de Serge Tcherkezov qui s'appelle Jeune fille en pleurs et qui décrit tout ce.
Et parce que Bougainville a cru que c'était une offrande, c'est ça, que cette femme venait s'offrir à lui.
C'est ça, Bougainville a cru que c'était un beau cadeau de bienvenue.
Parce qu'elle était quasiment nue, évidemment.
Elle était
dans la tradition
comme elle était chez elle, quoi.
Bah, bien sûr.
Donc et voilà, et elle a dansé pour lui voler son pouvoir, et il a cru que c'était pour autre chose.
Donc on a bien compris grâce à vous que les missionnaires au début du 19e siècle ont marqué un coup d'arrêt pour la culture polynésienne.
Ils ont marqué un coup d'arrêt pour la culture polynésienne, évidemment. Mais surtout, ça en apprend beaucoup. Enfin, on en apprend aussi beaucoup sur notre société de l'époque.
Bien sûr, ça c'est évident. Mais, voilà. Mais il a fallu retrouver ensuite tout ce qui a été oublié pendant les décennies, donc les générations qui ont suivi 1819 et ces interdictions liées aux missionnaires, c'est ça ?
Effectivement, et ce qui est très compliqué, c'est que ça n'a pas été uniquement oublié et interdit, mais souvent modifié. Dans un but politique.
Ah oui.
Et réutilisé pour le réancrer dans une fausse tradition qui servait leurs propres intérêts. Donc des chants traditionnels qui ont été utilisés pour permettre la christianisation, notamment. C'était pas le but premier. Ouais. Des chants sur place.
Et à partir de quand les Polynésiens ont pu se réapproprier ces traditions ? Milieu du 20e, c'est quoi l'époque ?
Ouais, à peu près, je dirais milieu du 20e.
C'est encore le cas aujourd'hui ? Il y a encore des traditions réinventées, redécouvertes ?
Bien sûr, et nous, à l'INALCO, mon établissement, on est fiers de pouvoir participer à ça. Il y a eu un CAPES de Tahitiens qui a été créé. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour aider à la création d'une élite locale qui a parfois été un peu spoliée, qui s'est faite un petit peu avoir dans l'histoire.
Ben, bravo à vous et à votre association Waga Waga. Comment on dit au revoir en tahitien ?
Amanava, à bientôt.
Amanava.
Amanava. Merci beaucoup, Bérangère.
Merci, Bérangère Aïtsoun Baptiste.
Vous écoutez RTL.